Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, merci d'abord de l'introduction sympathique et généreuse, provocatrice aussi, mais certainement, il faudrait que nous abordions le problème de l'esprit français comme d'autres ont abordé déjà dans le courant des études françaises en Hongrie. Qu'est-ce que c'est donc que l'esprit français? Comment approcher l'esprit qui se dégage d'une œuvre littéraire? Sans doute faut-il d'abord pénétrer les principes qui gouvernent sa composition et arriver aux symboles qui sous-tendent l'ensemble. On pourra alors préciser la manière dont le texte saisit le monde, en projetant sur le monde un réseau, une espèce de réseau particulier que les destinataires du texte accepteront comme valable. Sur ces principes, est-il possible de lier plusieurs textes, des genres différents, des auteurs éloignés dans le temps? Tout cela ferait partie donc de notre approche de l'esprit français. Est-ce que c'est possible, dans l'espoir de découvrir les lignes directrices d'une tradition, une continuité organique, voire des attitudes spirituelles fondamentales qui façonnent l'écriture et la vie littéraire? Peut-être nous ne sommes pas entièrement perdus dans tout ceci si dans le domaine qui nous intéresse ici, nous considérons à la fois les idées qui tendent vers une formulation et les formes textuelles elles-mêmes dans lesquelles ces idées vont s'inscrire. Il s'agit donc d'une certaine perception de la littérature française et de la France elle-même par les intellectuels et en particulier par les écrivains hongrois au XXe siècle. Nous devons remarquer tout de suite, simplement pour mémoire, que si la présence de la France est constante en Hongrie depuis un certain temps, il y a dans cette présence deux moments forts, évidemment. D'une part, le siècle des Lumières, les alentours de la Révolution, on peut penser donc à Bocsányi, on peut penser à Csokonai, mint egy Rousseau Ermenon villében ember és polgár leszek, je serai homme et citoyen, comme Rousseau. Et d'autre part, alors on pourra penser au tournant du 19e et du 20e siècle, au début de New Got, pour simplifier, où nous assistons à une curiosité littéraire accrue du public et qui se tournera donc, je pense au public des élites, mais qui se tournera d'une manière assez déterminée vers la France dans une sorte de soif intellectuelle accrue. Effectivement, deux plans sont ici secrètement liés. Il y a d'une part l'acceptation de la nouveauté littéraire. On peut penser, par exemple, à la réception du naturalisme de Zola, nous assistons à une sorte d'élargissement de l'horizon d'attente pour la représentation de la société. D'autre part, Toujours dans le cadre de ce premier plan qui est une sorte de curiosité littéraire, donc, nous pouvons citer un passage intéressant d'un article de Tóth Árpád qui est apparu dans New Got et où il prend la défense de certaines images poétiques. Il s'agit très précisément d'un poème de Baudelaire qui s'appelle « Confession ». Nous rappelons le poème, il y a cette femme belle par profession et qui, à un moment donné, plutôt une nuit, fait un aveu au poète. au milieu de l'intimité libre et close à la pâle clarté, de vous, clair, riche et sonore instrument où ne vibre que la joyeuse gaieté, de vous, clair et joyeux comme une fanfare dans le matin étincelant, une note plaintive, une note bizarre échappa tout en chancelant comme une, maintenant l'image, comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde dans sa famille rougirait. Donc ceci, pour certains critiques, choquait le bon goût et tout à fait, donc prend la défense de cet enfant chétive dans la comparaison. D'autre part, une société plus libre, la vue d'une société moins sclérosée semble s'esquisser aux yeux des écrivains. Et Audi, notamment, dans un article de 1906, parle de la conception de la vie sociale noble, sereine, indiscrète. En tâche d'homme, éduclée, nemesh, deluche, indiscrète, felfogachant. C'est donc son impression de Paris en 1906. À partir de là, on voit se cristalliser un certain nombre d'idées concernant les caractères de la littérature française, c'est-à-dire concernant l'attitude des auteurs vis-à-vis de la réalité et aussi vis-à-vis du langage. Et pour en parler d'une manière un peu plus détaillée, je dois revenir d'abord à Audi, dont on a beaucoup discuté concernant sa relation avec Baudelaire. Et certainement, quand on chercherait une influence directe de Baudelaire sur Audi, on ne la trouvera pas. Mais, curieusement, Audi, qui a d'ailleurs traduit de Baudelaire trois sonnets, entre autres traductions françaises, Audi se laisse inspirer par les images de Baudelaire. Ici, je citerai un autre poème de Baudelaire qui est Causerie, et où il s'agit mélancolie, évidemment, tristesse. Vous êtes un beau ciel d'automne clair et rose, buvez-je ces peu si équatune de clés rouge à sirum. Et rouge à sirum, c'est déjà quelque chose qui répond à une sorte de défi du texte français. Et puis on aura, à propos de la beauté, des yeux de feu qui deviendra hongrois tu sem. Il y a une nappe piloche, des yeux de fête rouges comme des yeux de feu rouges comme des fêtes, une nappe piloche du sem, ce sont des solutions originales de Audi qui sont inspirées en quelque sorte de Baudelaire. Mais toujours à propos de Audi, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que en Hongrie, il n'était pas accoutumé à des discussions littéraires dans un pays dont l'esthétique était contraignante. Ceci était quelque chose d'impossible, alors que à Paris, il remarque tout de suite qu'il y a une vie littéraire intense, et il ajoute d'ailleurs, sur un autre plan, les révolutions sont faites à Paris. Et personne n'a pu rien y changer depuis la destruction de la Bastille. À propos de ces remarques, je m'inspire largement de la belle étude de Thibodeau Gorilovitch qui s'appelle Oli Paris, genre Megilk Mythos, sur ces questions, donc, à propos de. Dans New God, la place de la littérature française est une place éminente. À ce propos, on peut toujours revenir à Baudelaire, dont la traduction intégrale datant de 1923 était l'œuvre de trois grands poètes, Tota, Padre, Babich et Savoie Linz. on peut rappeler la préface de cette édition, toujours sur deux plans. Il y a d'une part le plan stylistique, la sévère perfection formelle soulignée par les poètes, et d'autre part l'ennui le plus débauché, avec Zul Teb Unalom, de la vie urbaine moderne, peut fournir une matière pour l'art le plus élevé. C'est ce qu'ils ont trouvé de novateur dans la poésie de Baudelaire. Et tout de suite, ils recommandent pour la languissante poésie hongroise le contenu le plus audacieux et la forme la plus noble. C'est Jean Dorecart qui prétend fournir une synthèse des caractères de l'esprit français. C'est le titre de l'ouvrage « Francio Sellem » paru en 1938. Et on retrouve la dualité, quelque peu cachée, d'une part problème du style, d'autre part regard des écrivains français sur le monde. En ce qui concerne le style, on ne sera pas très surpris, on parle de clarté, on parle de précision, on parle d'esprit cartésien, on parle de Rivarol dont on a déjà parlé aujourd'hui, avec son idée du français, de langue universelle. En ce qui concerne, peut-être une remarque à propos de Proust, intéressante, Proust est caractérisé par une passion alliée à la froideur. Froideur renvoie à cette idée de classicisme de précision. Et d'autre part, Yergioi souligne d'abord le prosélytisme, il appelle cela prosélytisme des Français, c'est-à-dire une sorte de conscience de mission de la France. Un enseignement doit être répandu, l'enseignement des Lumières, l'enseignement des droits humains doit être répandu. Tout ceci sera encore mis sous le signe de la raison, parce que la psychologie des individus, dans les romans par exemple, doit être analysée d'une manière clair, raisonnable, si l'on veut, dans ses déterminations sociales, mais aussi dans ses déterminations individuelles. Et à ce propos, Eckhart souligne la sociabilité des Français, ce qui a pour résultat, entre autres, une vie littéraire intense. Par des formules à la fois plus lapidaires et plus poétiques, Gyula Ilyés cherche à définir l'essence proprement littéraire du trésor, entre guillemets, trésor, qu'il présente au public hongrois en 1942 à Francia Irodalom Kincses Háza dans la préface. Ilyés opère avec des antithèses en disant « La poésie du peuple le plus démocratique du monde est la plus exigeante et la plus aristocratique possible. Le contenu du poème est toujours caché et toujours terrible. » De Banatèche, dit-il, on dirait que c'est Blanchot qui parle. Et d'autre part, la prose doit saisir tout ce qui est saisissable pour l'intellect, et tout ceci suppose l'élaboration d'une langue littéraire particulière. La langue littéraire, là on trouve une exagération mais on la comprend, la langue littéraire est utilisée uniquement pour les initiés. Et le mot français n'a ni goût ni saveur dans la littérature. Le mot français littéraire est poli, lumineux et authentique. Mais, ajoute-t-il, la littérature française est constituée d'une succession de surprises. Nous pouvons en espérer d'autres. A-t-il eu raison ? Il faut le décider. Et, en tout cas, cette préface porte évidemment l'empreinte sombre de l'histoire, car en 1942, cette anthologie est un acte d'hommage et de reconnaissance pour le peuple français à un moment difficile de son destin. C'est la dernière phrase de la préface. Et remarquons d'ailleurs que Eckhart ne se prive pas non plus d'une remarque pareille en disant qu'actuellement il y a des pays où des millions d'êtres humains sont dépourvus de leurs droits humains en 1938. Parmi les critiques qui soulignent l'importance de la tradition littéraire, je citerai maintenant Albert Gerdioy, dont tout l'œuvre est un puissant hommage à la littérature française. Je m'arrêterai à ce qu'il dit de la tradition moraliste, une attitude éminemment française. Je cite Gerdioy, en partant de leurs observations, de leurs expériences, de leurs dons personnels, les moralistes cherchent à éclairer le propre de l'homme, son essence, sa place dans le monde, sans la suprématie du législateur et sans l'esprit de système des philosophes, à l'aide de la raison claire et d'un chaleureux amour humain. J'ai mis un certain nombre de titres sur la feuille que j'ai distribuée. Vous trouverez ici notamment Keshuitol, l'osage de Gerdioy. Il dit ceci dans l'étude en question à propos de ce qu'il appelle les paraboles, c'est-à-dire les romans, paraboles pour lui, de Camus, qui continue donc cette tradition des moralistes. Ce regard que les écrivains et les critiques hongrois jettent sur la littérature française, cette perception diversifiée et pourtant en quelque sorte unitaire de l'esprit français, sont liés naturellement à une vaste problématique que je n'ai fait qu'effleurer aujourd'hui, c'est évidemment l'influence des lettres françaises sur la production littéraire hongroise et influence dont une phase a été analysée par notre collègue Canali. Contentons-nous de dire pour le moment que cette influence a été constante et qu'elle reste encore à éclairer dans ses profondeurs. Les études de détail ne manquent pas. Je renvoie à Esmeyer Shirodormitolalkozás, qui a déjà été évoqué, ouvrage de 1964, je crois, 1970. Je renvoie une étude recueil d'essais de Peter Nagy, Vous et nous, paru en français, en Hongrie, et je rappelle tout de même, concernant la poésie moderne, l'ouvrage magnifique et exemplaire d'André Carasson sur le symbolisme en Hongrie. Ce qui ressort de toutes ces approches, c'est d'abord une convergence des deux littératures sur le chemin qui mène vers la modernité. Mais en même temps, les intellectuels hongrois découvrent dans les lettres françaises un constant renouveau et une promesse de liberté. En parlant des œuvres littéraires, Valéry disait « Une forme enveloppe tout ». Il souligne « forme » qui est opposée à « fond ». C'est une forme qui enveloppe tout dans l'œuvre. Et c'est de cela qu'il s'agit, d'une formulation complexe de la réalité, une formulation linguistique qui sans cesse se dépasse elle-même en s'opposant à toute contrainte extérieure et à tout préjugé idéologique.